Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Pâques va être là. Et on va donc parler de ce matin d'un sujet qu'on devrait parler à l'année longue, mais qu'on en parle plus à Pâques, la vérité de la résurrection. Je prendrai la prochaine image, s'il vous plaît, dès que vous pouvez. La résurrection est vraiment la pierre angulaire. La pierre angulaire, vous savez, c'est quoi? C'est la pierre que si on l'enlève, tout s'effondre. Hein? Ce qui est le fun, là, elle a la signe, la forme d'une croix, là, mais c'était l'image qu'il y avait. On enlève cette pierre-là et tout le reste s'écroule. Et si, selon moi, il y a une vérité, une seule qu'on devrait choisir sur laquelle repose tout l'ensemble du christianisme, personnellement, je crois que c'est la résurrection. Oui, la vérité, le fait que Jésus est le Fils de Dieu, c'est des plus importants. Le fait qu'il a donné sa vie pour nous pardonner, qu'il réconcilie l'homme avec lui-même, avec Dieu le Père, qui nous fait connaître le Dieu véritable, tout ça, c'est important, mais elles ont un lien direct et je dirais, ultimement, pour l'homme, elles sont subordonnées à la résurrection. La chose qui distingue le christianisme de tout autre mouvement, encore une fois, selon moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est la résurrection. Ce qui fait que la foi chrétienne n'est pas une religion, n'est pas un mouvement, n'est pas une chose qu'on suit parce qu'on aime être religieux, c'est la résurrection. Et quand on y pense, plusieurs chrétiens, des chrétiens de nom, de toute allégeance, de toute nomination, ils vont croire en Jésus. Ils vont se ranger derrière Jésus, de dire, moi, Jésus, c'est de tous les personnages historiques, c'est celui qui répond le plus à mes aspirations, à mes attentes. Il y en a qui vont vouloir suivre les enseignements de Jésus, qui vont honorer sa vie exemplaire. Ils vont avoir plusieurs noms, catholiques, protestants, même évangéliques, toutes sortes de noms. Mais la question fatidique. Que pensez-vous de la résurrection de Jésus telle qu'enseignée dans les évangiles? Et là, les réponses vont diverger. Ça va aller dans tous les sens. Ah, vous savez, oui, on croit en Jésus, mais savoir s'il est vraiment ressuscité, on n'était pas là, hein? On n'a pas de certitude. C'est une belle image de la puissance de la vie. Hein? C'est le cycle de la vie, comme ça disait dans Le Roi Lion. La seule vraie foi en Jésus implique une croyance totale et absolue en la résurrection de Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Résurrection, c'est ce qui est au cœur. Et chaque être humain est placé devant cette vérité et devant ce choix. Crois-tu à la résurrection? Que fais-tu de Jésus qui prétend, qui affirme être ressuscité? Que réponds-tu à la résurrection? Et la réponse à cette question va, on le sait, frères et sœurs, déterminer notre éternité. Et Paul a enseigné là-dessus à plusieurs reprises, mais il a concentré beaucoup d'enseignements dans un seul chapitre, et principalement, on va aller dans ce chapitre, je vous invite à tourner avec moi, dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Paul a soulevé des questions. Dans les versets 12 à 18, que vous avez certains passages qu'on va aller voir, Paul soulève les questions. Et à cette époque, la résurrection était vraiment remise en question, surtout pour les philosophes grecs. Il était impossible pour eux de croire qu'un Dieu, il y avait plusieurs dieux à ce moment-là, qu'un Dieu ait pris une forme humaine, parce que ce qui était spirituel, ce qui était pur, ça ne pouvait pas demeurer dans la chair. La chair était souillée et le spirituel était pur, et ça amenait à toutes sortes d'inconduites, ou avec ton corps sexuellement, ou à tous les aspects. Tu peux faire n'importe quoi parce que ça ne touche pas le spirituel. Les deux, là, c'est séparé. Et là, tu viens dire qu'il y a un Dieu qui est venu dans un corps et en plus qui est corporellement ressuscité. Pour eux, ça ne faisait pas de sens. Et pour la population aussi, il était vraiment mis au défi pour croire aux vérités de Jésus mort et ressuscité. Il avait besoin de savoir si c'était vrai ou si c'était une imposture. Vous êtes dans 1 Corinthiens 15? Je vous invite à tourner, même si vous avez quelques versets, là, d'avoir un doigt dans... et de suivre les versets, là, ça va être utile. 1 Corinthiens 15. Donc, dans les versets 12 à 18, Paul soulève ces questions-là. Certaines des objections qu'il entendait de la part des Corinthiens et de tout le monde dans l'Asie mineure à ce moment-là. Donc, verset 12, Paul soulève ces questions. Verset 12. « Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Donc, il écrivait aux Corinthiens, puis les Corinthiens étaient bombardés, attaqués de toutes parts. Et là, il disait, « Oui, mais c'est-tu vraiment vrai? » Ils nous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Donc, Paul commence à dire, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y en a pas du tout, bien, Christ n'est pas ressuscité. » Verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Paul prend la peine de soulever les questions qui est amenées. Et pour que les chrétiens soient conséquents, en disant, écoutez, on ne peut pas jouer à deux niveaux. Si Christ est mort, il y a une résurrection. Et si Christ est mort pour nous et qu'on a la vie éternelle, on a cette assurance de la vie éternelle. Paul avait amené les réponses dans les versets 1 à 8 avant de soulever les questions, et on veut voir certaines des vérités. Verset 1, Paul dit, je vous rappelle l'Évangile. L'Évangile qui vous sauve, dans lequel vous avez cru, que vous avez reçu, vous avez persévéré, il dit, vous êtes sauvés tant que vous le retenez dans les termes selon le contenu qui est dans l'Évangile. Sans ça, ça ne marche pas. Et quel est l'essentiel sur lequel il va taper constamment pour dire, voici le point essentiel de l'Évangile? Verset 3. Christ, mort, enseveli et ressuscité. C'est la résurrection qui fait toute la différence. C'est ça l'enseignement de base. On va lire les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Paul s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament. Paul s'appuie sur ce qui était en train d'être écrit et qu'il reconnaissait aussi comme les Écritures dans le Nouveau Testament. Jésus, après sa résurrection, juste avant de monter au ciel, en Luc 24, vous avez le verset ici, versets 44 à 46, Jésus dit, vous souvenez-vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans les Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Les vérités sont là par rapport à la résurrection. Pendant 1500 ans, 2000 ans, Dieu avait annoncé, avait prédit, avait enseigné ses vérités sur le Messie qui allait venir, qui allait donner sa vie, qui allait ressusciter. Et là, ça s'accomplit. La certitude de la résurrection à cause des Écritures. Ensuite, il y a d'autres évidences, hein, dans les versets 5 à 8. Paul a vu Jésus ressuscité. Il est apparu à Pierre, aux 12, à 500. Et ensuite, il dit à Jacques et à moi, Paul, qui suis le dernier des apôtres. La certitude. Verset 11. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons et voici ce que vous avez cru. » La résurrection est là dans tout le chapitre. Et il dit, « Vous êtes sauvés et vous persévérez dans la foi si la résurrection est vraiment au cœur de votre croyance et que c'est une certitude dans laquelle vous mettez votre confiance. » Ça, c'est l'enseignement. Et quand on parle d'enseignement, il y a un peu un aspect théorique, hein? Vous dites, Richard, là, c'est pas mal technique ton affaire, c'est des choses de doctrine, d'enseignement. Et Paul a pris la peine d'enseigner, mais Paul est allé plus loin. Il dit, comment savoir que c'est vraiment vrai, là, ce que je vous dis? Et Paul se sert de sa vie, son engagement. Dans l'argumentation de Paul, Paul amène plusieurs preuves, hein? C'est Christ qui est apparu, c'est les Écritures. Un des arguments qui parle le plus fort, c'est la vie de Paul, la vie de ses compagnons de service. Paul démontre qu'on ne donne pas sa vie pour un mensonge. Que si la résurrection n'était pas réelle, concrète, qu'il ne donnerait pas sa vie pour le service de l'Évangile. Paul démontre la réalité de la résurrection par son engagement. Il est prêt à vivre et à mourir pour l'Évangile parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est vraiment ressuscité. J'aime tellement le verset 32. Paul dit, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Paul est en train de dire, s'il n'y a pas de résurrection, c'est juste une doctrine, une philosophie que j'établis. Il dit, il n'y a personne qui est assez fou pour souffrir là-dessus. Paul réfléchit Et il se dit que toutes ces souffrances, ce n'est pas pour sa gloire, ce n'est pas pour son but personnel, ce n'est pas pour lui. Paul est conscient de la situation de sa vie. Il savait quel genre de vie il avait. Au verset 19, il a dit, « Si c'est seulement dans cette vie que je vis. » Supposons qu'il y avait juste une vie et que je me trompe totalement sur la résurrection parce qu'une fois qu'on meurt, on s'éteint puis il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Jésus ressuscité. Il dit, « Moi, je serais le plus malheureux de tous les hommes. » Il dit, « Moi, j'aurais été le plus malheureux. J'aurais une vie de souffrance, une vie que j'ai tout sacrifié. J'ai enduré des souffrances, des privations avec la douleur. » J'aurais tout fait ça pour rien, absolument rien. Il dit, c'est seulement dans cette vie, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Et au verset, Romains 8, verset 35-36, vous avez le verset ici, hein, c'est une citation, il dit, c'est à cause de toi, Dieu Jésus, qu'on nous considère comme des brebis qu'on mène à la boucherie. Les gens nous regardent et ils disent, sont donc ben niaiseux, ces chrétiens-là. Ils se laissent tuer dans les arènes. Ils ont juste à dire, je ne crois pas en Jésus, puis ils vont avoir la vie sauve, puis ils disent, non, je crois en Jésus. Je crois en Jésus ressuscité, mort sur la croix, pour moi, qui me donne la vie éternelle. Les gens qui ne croyaient pas à l'Évangile regardaient Paul regardait ses compagnons d'œuvre et disait, ce gars-là, cette gang-là, ils sont fous. Et Paul en était bien conscient. Mais Paul n'était pas fou. Il savait pourquoi il donnait sa vie. Il connaissait toutes choses. Il était vraiment lucide. Il était capable de dire, ouais, c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, n'acceptons pas de souffrances inutiles, profitons de la vie. Mais Paul souffrait avec une pleine connaissance. Il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Jésus qui lui a dit, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ce serait dur de regimber contre tes aiguillons, ce serait dur de dire que tu n'es pas en train de me persécuter, mais mes enfants, c'est pourquoi il n'avait pas peur de gaspiller sa vie dans le Seigneur. Il n'avait pas du tout l'impression de gaspiller sa vie. Paul démontre la certitude de la résurrection parce qu'il acceptait d'être confronté constamment à la mort. Et il disait, pour moi, mourir, c'est un gain parce que je m'en vais auprès de mon Sauveur. Son engagement était total. Il n'y avait rien à perdre. Tout à gagner en allant vers Jésus. Et sa réponse finale, sa déclaration après, on a vu tantôt les arguments là, des versets 12 à 18, puis cette affirmation au verset 19, que si c'est seulement dans cette vie, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Au verset 20, il dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ça, c'est son affirmation, c'est sa vérité. C'est la fondation sur laquelle il établissait sa vie. Et de la même façon, et on a besoin de se questionner, de se remettre en question, et ça va nous secouer, ça va nous chavirer, ça va nous sortir de notre petite vie tranquille où on se soucie tellement de quelques centaines de dollars, on se soucie tellement d'un peu de vacances, on se soucie tellement de quelques biens matériels qui sont abîmés. Hein. Notre belle auto là, qu'on vient d'acheter, notre enfant passe à côté, puis il y a une petite crache à peinture, puis moi, ça m'arrache le cœur. Quand il y en a beaucoup, là, c'est correct. Notre engagement envers Jésus, envers son œuvre, va être la démonstration de notre foi, de notre croyance absolue en la résurrection de Jésus. Et notre Dieu, Jésus, un bon maître, nous appelle à le suivre. Jésus nous enseigne ce qu'il veut qu'on prenne part à la résurrection. On a déjà reçu cette vie éternelle comme un cadeau, comme une grâce. Et là, une fois qu'on l'a, qu'on est certain, il y a un engagement entier, un engagement qui est juste conséquent. Puisque la résurrection est vraie, bien, regarde, je veux vivre comme un ressuscité. J'aimerais qu'on regarde quelques implications de la résurrection. Et la première, ça devrait plus s'appeler une constatation. Les autres, ça va être des implications. La constatation, c'est que c'est vrai. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est digne de confiance. La personne qui bâtit sa vie sur le fait que Jésus est vraiment ressuscité et qu'en étant ressuscité, quand on met notre confiance en lui, il donne la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Jésus de cette façon ne sera pas trompé, ne sera pas déçu, ne se retrouvera pas à la fin de sa vie, quand ses yeux vont se fermer, de dire « Ah, c'était pas vrai. Ah, je me suis fait avoir. » La société, présentement, peut-être d'une façon des plus grandes, met une telle pression sur les enfants de Dieu. Dites à Pâques, à votre entourage, votre ami, au travail, dites que vous croyez à la résurrection de Jésus. Quelle réaction vous allez... Tant mieux pour toi, ce serait déjà bon. Ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on vit des dichotomies, des vérités différentes. Si on demande à la population, encore l'année passée, des sondages légers, si on demande aux gens, croyez-vous que Jésus-Christ a existé comme un personnage véridique, historique, les gens répondent encore, et moi ça m'étonne tout le temps, entre 60 et 65 % des fois 62, 63 % et moi je suis comme, hey, ils croient que Jésus était vrai, là, ils croient même que ce qui est enseigné dans la Bible sur la vie de Jésus, parce que c'est là qu'on a la connaissance de Jésus. Les gens croient que Jésus est venu pour vrai. Les gens croient même ont une certaine confiance dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Mais là où le pourcentage baisse dramatiquement, c'est quand ils doivent répondre à la question « Est-ce que Jésus est ressuscité? » Et dans la plupart des sondages, cette question n'est pas là. Les gens font bien de réfléchir. Les gens font bien de se poser des questions. Parce que la résurrection a tellement d'implications. Les gens se demandent, « Oui, Richard, tu crois que Jésus est ressuscité, mais comment je peux être 100% certain de la résurrection? » Les gens nous demandent, « Comment fonder ma vie sur un événement qui est arrivé il y a 2000 ans? » Les gens nous demandent, est-ce que ce serait possible que le récit de la Bible soit une invention? Si oui, hein, dans quel but ça profite à qui? Est-ce que ce serait possible, d'un autre côté, que l'histoire séculière, sans aucun lien avec la foi en Jésus, juste au niveau historique, se soit trompée à ce point en établissant le calendrier d'après la résurrection de Jésus, en parlant des chrétiens dans les arènes, hein, qui se font manger par les lions, puis qui se font décapiter, puis qu'ils font ça avec une joie, une sérénité. Est-ce que ça a été inventé? Ce n'est pas nous, les chrétiens, qui gardons de telles histoires, qui gardons ces récits. Ici, ce n'est pas vrai. Pourquoi des gens sensés, qui aiment la vie, qui aiment vivre en sécurité, qu'on veut le bonheur pour nos enfants, on veut une vie agréable, aisée, pourquoi des gens sensés de tout arrière-plan, de toute culture, seraient-ils prêts à mourir pour une fable ou une légende? Le témoignage de ceux qui ont vécu ces événements, l'impact dans leur vie, les disciples, les 12 qui, après la mort de Jésus, quand Jésus était au tombeau, ces hommes-là étaient défaits. Ces hommes-là pensaient que c'est fini, on s'est fait avoir, on pensait que ce serait lui, mais déjà 3 jours. Ça, c'est les paroles des disciples d'Emmaüs, hein, qui étaient en chemin, qui s'en retournaient dans leur village, qui arrivaient de Jérusalem, puis ils disaient, on ne comprend pas, on pensait bien que c'était lui. Mais déjà 3 jours, puis il ne s'est rien passé, puis on s'est trompé, on a été trompé. Et là, ils ont fait la rencontre de Jésus. Jésus était là, marchait avec eux, mais ils ne l'avaient pas encore reconnu. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus, au moment de rompre le pain, s'est révélé à eux? Leur cœur a bondi de joie, puis il dit, on avait tellement d'émotions, Jésus était là, puis on ne l'avait pas, puis là c'est lui. Enfin, leur vie a été transformée. C'était la nuit, ils sont partis à courir 11-12 kilomètres en se cognant les pieds d'un rocher sur la route pour aller à Jérusalem et dire « Jésus est ressuscité ». Ça, c'est le témoignage de ceux qui l'ont vécu. De peureux sont devenus courageux. De désespérés sont devenus remplis de foi. La différence que fait la certitude de la résurrection. Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu aux 11. Il n'avait pas vu Jésus ressuscité. Et à cause de ça, Thomas, il refusait de croire. Il dit, tant que je n'ai pas mis mon doigt dans ses mains et dans son côté, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, Jésus est apparu à Thomas. Et quelle différence ça a fait? Toute la différence. C'est pourquoi Jésus, pour établir le fondement de la foi pour tous ceux qui allaient croire, est apparu à un grand nombre de disciples, hein? À une occasion à 500 personnes. On peut se fier au récit biblique. Et encore plus sur la réaction des gens dont il est question ici. Ils avaient ce message. Jésus est vraiment ressuscité. Pour nous, Jésus ne nous apparaîtra pas de la même façon. Pour nous, on ne peut pas être des témoins historiques. On est 2000 ans plus tard. Mais on a quand même, dans la grâce de Dieu, vécu une expérience. On a vécu cette nouvelle naissance où Jésus, d'une façon personnelle, nous a parlé, où on a eu la conviction du Saint-Esprit pour notre conversion, pour recevoir Jésus, notre Sauveur. Et ensuite, on a eu cette conviction du Saint-Esprit, cette conviction de la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace pour nous dire, « Hey, Seigneur, tu agis dans mon cœur et mon cœur résonne quand je lis ta parole. Quand je pleure littéralement quand je vois que tu as donné ta vie puis que tu es ressuscité, tu es encore réel, tu agis encore dans les cœurs, tu agis dans mon cœur. » On n'a qu'à voir la soif du cœur humain encore à notre époque, la soif pour la résurrection. Tellement de gens, et moi, ça me frappe toujours quand j'entends ces témoignages-là, là, j'écoute. Ces gens qui ne croient en aucun Dieu, aucune religion, mais qui ont cette conviction que quand leurs proches qui aimaient tant, qui étaient tant précieux, quand ils sont décédés, qu'est-ce qu'on entend parfois? Hey, on peut y parler. On sait qu'ils sont là. Ils nous guident des fois. On sent leur présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là qui ne sont pas en train de se soucier de Jésus, il y a quelque chose en eux qui leur dit que mon enfant qui est mort à 4, 5 ans, 6 ans, peu importe l'âge, cet être-là, j'avais tellement un lien avec lui, puis c'était une personne humaine, il y avait une personnalité. C'est tellement précieux que je veux que ça continue. Il y a quelque chose dans le cœur humain qui pousse à croire que la mort physique, ce n'est pas la fin, qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a aussi la peur de la mort. Un Hébreu nous dit que, nous parle de ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. La vie est précieuse, la vie peut être belle. Et il y a une genre d'absurdité de la mort, tant d'efforts, tant de sacrifices, le désir d'aimer, le désir de bien faire, de bâtir quelque chose. Et tout à coup, pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment, sur la route, une maladie, peu importe, et tout s'arrête, c'est fini. Il y a quelque chose dans ça qui ne fit pas, qui ne marche pas avec nos croyances. Il doit y avoir plus, il faut qu'il y ait plus qu'une courte vie terrestre. S'il n'y a pas de vie après la mort, la vie devient absurde, sans raison de vivre. Est-ce que la vie, c'est une petite parenthèse où on est conscient de quelque chose? Avant, on n'était conscient de rien, on est conscient de quelque chose, puis là, on en profite le plus possible, là, puis mangeons et buvons, car demain nous mourrons, puis après ça, on s'éteint. Il y a quelque chose de plus que ça. Et ça crie dans le cœur de chaque être humain. On est capable d'endurcir, d'engourdir ces croyances-là, mais c'est là, dans le cœur. Excusez-moi, je vais avancer un petit peu. Si Jésus est ressuscité, il est vivant. Qui ici, secrètement, dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais que tu sois plus vivant dans ma vie. » Parfois, j'ai l'impression que tu ne fais pas grand-chose. J'ai l'impression que j'aimerais que tu en fasses plus. J'aimerais que tu sois plus à l'œuvre. Il est dit que Jésus est le prince de la vie, hein, qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Donc, si Jésus est vivant, il est conscient, il est présent, il écoute, il entend. On a besoin d'affirmer ces vérités-là dans notre cœur. Jésus, tu es ressuscité, puis tu es vivant. Tu es là dans le ciel, tu vois tes enfants, tu vois toutes tes créatures. Tu laisses aller les choses jusqu'à une certaine mesure, mais en même temps, tu as contrôle sur toute chose dans ta sagesse parfaite. On a besoin de dire, Jésus, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et tu es vivant. On a besoin aussi de voir que Jésus est puissant. Imaginez la puissance que ça l'a pris à Jésus pour vaincre la mort. On peut dire que Jésus a eu une certaine puissance pour ressusciter d'autres personnes. Il a ressuscité Lazare. Mais on peut dire que Jésus était à l'extérieur du tombeau, il était là et il a parlé et il a réussi à ressusciter Lazare. Mais il l'a fait pour lui-même, au moment où son corps était mort physiquement. Il l'a fait par la puissance du Père, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, en ressuscitant, a dépouillé les dominations, les autorités, et la Bible nous dit qu'il a triomphé d'elles par la croix. Nous qui croyons fermement à la résurrection, on a besoin de croire à la puissance de la résurrection. Jésus est vivant. Jésus est puissant. On a cette puissance pour accomplir la grande commission. Toute autorité, toute puissance m'a été donnée sur la terre et dans le ciel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus met à notre disposition cette puissance. On a la puissance de la résurrection dans notre vie que dans Éphésiens, dans le contexte Éphésiens 1:19, ça enseigne que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle est à la disposition de qui? De nous qui croyons. Ça, c'est comme si tu me dis la puissance de la bombe atomique, Hiroshima ou n'importe quelle explosion atomique nucléaire qu'il y a dans une centrale, que cette puissance-là, elle est disponible pour faire quoi? Pour chauffer mes petites plaintes électriques pendant l'hiver. Ça nous dépasse, hein? Puis parfois, c'est tout ce défi-là de dire, Seigneur, ta puissance est tellement grande, puis je me sens tellement faible, c'est comme si il y a des jets d'eau tellement forts que je n'arrive pas à avoir un petit peu d'eau dans mon goulot, là, parce que c'est trop fort, puis je ne sais pas comment. On a besoin d'être dépendant, de tomber dans cet état de faiblesse et de continuer d'espérer en Dieu, de dire, tu est puissant. La puissance, la résurrection, c'est celle que tu mets à ma disposition. Une des implications tellement grande, tellement importante, qui fortifie notre âme et qui envoie un message puissant, c'est d'être un témoin. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui fait de nous des témoins convaincants, c'est de croire de tout notre cœur à la vérité de la résurrection. Si on y croit, on va en parler. Dans le livre des Actes, Pierre qui disait, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il avait vu Jésus. Jésus mort, Jésus ressuscité. Et la résurrection est un enjeu tellement grand. On se souvient des pharisiens, docteurs de la loi, qui, après avoir mis Jésus à mort, ils ont envoyé des soldats et ont dit, « Surveillez le tombeau. Surveillez le tombeau parce que on ne veut pas que les disciples viennent et volent le corps. » Et là, ils ont dit, « Cette imposture serait pire que la première. » Ce serait quoi la première imposture? Possiblement que Jésus se disait être le Messie. Et là, la deuxième, ce serait qu'il est ressuscité. Mais quand ils ont constaté que Jésus était vraiment ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mentez. Mentez et dites que les disciples sont venus voler le corps et qu'ils vous ont battu. Puis on va vous couvrir, hein, on va vous protéger. Tout un enjeu dans la résurrection. Tout un enjeu tellement grand. Et nous, on a besoin de ne pas rester juste flou par rapport à la résurrection. Oui, 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 c'est Pâques, oui, oui, la résurrection de Jésus. On va peut-être écouter un DVD ou un film qui va passer à la télévision pour oui, qui parle de la résurrection. On a besoin de se situer. On a besoin de venir devant Jésus, de dire, « Jésus, je sais que tu es mon sauveur. Je sais que tu es mon Seigneur. Et je veux vivre comme un ressuscité. Je veux vivre comme un de tes enfants qui met sa confiance en toi et t'es digne de confiance parce que tu as vaincu la mort. Tu as été 3 jours dans le tombeau. Et au bout de 3 jours, comme il était écrit dans les Écritures, comme il était annoncé 1000 ans avant, tu es ressuscité, tu es apparu, tu as transformé un Saul de Tarse, un homme violent, en un serviteur exemplaire. Lui, il t'avait vu. Tous ceux qui t'ont vu, ils ont été transformés, ils ont été prêts à donner leur vie. Et Jésus, moi, je ne t'ai pas vu de mes yeux, mais je peux affirmer que je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité et que ma confiance est mise en toi, Jésus, et que la puissance de la résurrection, c'est celle que tu mets à ma disposition. Question la plus importante pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais question aussi des plus importantes pour nous. Croyons-nous à la résurrection? Croyons-nous vraiment à la résurrection? Une vie sans croyance profonde va être vécue d'une façon. Mais une vie avec la certitude de la résurrection de Jésus va être vécu d'une façon totalement différente. Est-ce que c'est possible pour nous, enfants de Dieu, de croire à la résurrection? Oui, oui, je crois. Et de vivre comme si elle n'existait pas vraiment? Oui, c'est possible. En oubliant la réalité. La résurrection. Dans ce temps de Pâques, mais tout au long de l'année, on a besoin parfois de se pincer. On se lève le matin, on se lève du pied gauche et on ne file pas, là, puis plein de problèmes, puis « Seigneur, il me semble que tu ne fais pas grand-chose. » On a besoin d'affirmer ce qu'on croit, de croire à nos vérités profondes, de dire, Jésus, tu es le Dieu qui est ressuscité, tu as vaincu la mort, tu m'as donné la vie éternelle. Comme tu es ressuscité, j'ai la certitude qu'à ma mort, je vais être dans ta présence, je vais avoir cette résurrection Et à cause de cela, je veux vivre comme un ressuscité. Je veux vivre ces vérités-là. Je veux vivre avec ta puissance. Je veux vivre comme si tu es vivant. Et surtout, je veux être un témoin. Si c'est tellement grand, si c'est tellement important, je veux le dire aux autres. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole, la parole vivante et éternelle. Merci parce que tu témoignes à notre esprit que tu es vraiment ressuscité. Merci pour ce témoignage vrai et digne de confiance de tes apôtres qui ont été avec toi, qui ont été déçus, mais qui t'ont vu. Et ça l'a bouleversé, transformé leur vie. Merci pour les disciples d'Emmaüs dont on a le récit, qui ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Jésus était là, puis on ne le savait pas, puis il s'est révélé à nous, puis là on a compris qu'il est ressuscité. Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, viens embraser nos cœurs de la même façon. Viens faire brûler nos cœurs parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Ô Seigneur Jésus, donne-nous de dire avec hardiesse à ce peuple, à cette société incrédule, moqueur, que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, merci d'avoir affronté la mort. Merci d'avoir subi la malédiction de la croix. Merci pour le calvaire que tu as subi en étant en proie à l'agonie, à la moquerie. Merci, Jésus, pour la puissance que tu as manifestée en ressuscitant. Merci de t'être révélé à ces hommes, ces femmes, par milliers, par millions. Et merci, Jésus, de t'être révélé à moi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, le ressuscité. Amen.
On peut l'applaudir, merci. Un bon message sur la résurrection. Moi, c'est un message sur la résurrection que j'ai entendu en 1990. Le pasteur, il donnait toutes les évidences physiques de la résurrection, là, avec comment on embaumait les morts, comment on mettait une centaine de livres d'aromates sur le corps mort. Puis, il donnait les évidences que Jésus-Christ était ressuscité, un peu comme aujourd'hui avec les apôtres qui étaient prêts à mourir pour ce qu'ils croyaient être une vérité. Personne ne meurt pour quelque chose qu'il croit être un mensonge ou une cacheterie. Et ce soir-là, j'ai vraiment, avant, le petit Jésus, il était en plâtre puis il était en dessous de mon arbre. Mais là, celui qui m'était présenté, c'est pas le petit Jésus. C'était mon Créateur, mon Dieu qui s'était fait chair, qui était venu mourir pour moi, mais un mort, personne n'a besoin de répondre à un mort. Mais s'il est vivant, dans mon cœur, ça dit, si vraiment Jésus est vivant, il attend une réponse de toi. C'est ça qui est venu dans mon cœur. Ce soir-là, j'ai reçu le don de la vie éternelle. Et ça a complètement commencé à changer ma vie, parce qu'on sait que quand on commence à croire en Jésus, la puissance de celui qui a ressuscité Christ commence à agir en nous, dans la mesure où on croit que Jésus est vivant et qu'il est avec nous. Dans Éphésiens 1, au verset 16, on l'a lu un petit peu, je pense, au verset 18, mais c'est écrit que Paul, il dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par l'efficacité en vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Ce soir-là, le Saint-Esprit est venu ouvrir mon cœur, comme le verset dit ici, puis j'ai vu que j'avais une destinée éternelle. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, on meurt, puis on va se faire manger par les vers, puis c'est fini. Mais si Christ est ressuscité, celui qui a ressuscité Christ habite aussi en nous. Il va nous ressusciter par la même puissance qu'a ressuscité Christ. Pas de résurrection, notre foi est vaine, comme disait Pasteur Richard. Et donc, mes yeux se sont ouverts, puis j'ai vu que non seulement Christ était vivant, puis je devais y répondre, mais Christ voulait vivre en moi, puis me donner sa vie. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas une chose qu'on reçoit, c'est la personne même de Dieu qui vient vivre dans ceux qu'il a créés. C'est Dieu qui habite dans un homme. Et cette vie-là, c'est la vie même de Jésus qu'on reçoit. Et le Nouveau Testament nous l'enseigne comme étant le dépôt de l'Esprit, un dépôt qui nous est donné. Ils vont utiliser un mot qui s'appelle un har, A-H-R-E-S. C'est une mise de côté. Et on faisait le sceau, et c'est une autre chose qui est utilisée, le sceau. On pouvait aller, mettons, marquer de son sceau, mettons, on chauffait dans le feu, puis on marquait un morceau de bois ou quelque chose qui était à nous, mais qu'on n'était pas encore venu chercher. Et Paul nous dit, à chaque fois que vous vous rassemblez, ou souvent, faites souvent cela. Il va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, on va se préparer pour le repas du Seigneur. Mais en 1 Corinthiens, chapitre 11, Paul dit, d'ailleurs, lui, il a rencontré le Seigneur, ressuscité. Et c'est ça qui a changé, qui est devenu de persécuteur à quelqu'un qui était prêt à souffrir pour cette foi-là, puis qui ne faisait aucun cas de sa vie, pourvu que Christ soit annoncé. Paul a changé, il a passé de ceux qui tuaient à ceux qui étaient... Et d'ailleurs, il a lui-même été probablement mort de martyr à Rome. Il était prêt pour ça. Puis il nous le dit dans le verset. Premièrement, il prend des preuves doctrinales. Ce qu'on a reçu, c'est que Christ est ressuscité, qui est mort, qui est ressuscité, qui a été enseveli, qui a été ressuscité. Mais il dit ailleurs, dans 1 Corinthiens 15, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » Il dit encore, « Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain, que vous buvrez de cette coupe, que buvez de cette coupe. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On annonce sa mort, mais on annonce aussi qu'il va revenir. Et donc, ce soir-là, mes yeux se sont ouverts sur le fait que Jésus n'était pas juste un mort, mais quelqu'un de vivant auquel je pouvais croire à lui. En plus de ça, il me donnait sa vie et me promettait un héritage futur, la vie éternelle avec lui. Et ce soir-là, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, « Seigneur, me voici. » Et on a entendu, moi j'ai fait, tu sais, quand, avant que je sois, mettons, chrétien, bien, je croyais en Christ, je croyais en Dieu, je croyais en la Bible, mais je ne la lisais pas. Je connaissais son père, mais pas vraiment son fils. Puis quand il nous posait des questions dans les cours de religion, je disais qu'il fallait être une bonne personne. Je pensais qu'il fallait être une bonne personne pour aller au ciel. Puis, j'ai eu des cours, on appelait ça la profession de foi. C'était rendu en secondaire 2, puis on nous faisait vivre un cheminement de foi. Et dans l'église que je fréquentais, ça disait que quelqu'un avait cru à notre place quand on était bébé, puis que c'était, à un moment donné, ça devenait important que la foi du parrain qui t'avait sauvé, entre guillemets, devienne ta foi pour que là, tu puisses avoir une foi personnelle dans le Christ, tu sais. Puis, il fallait passer au travers un sacrement dans lequel Dieu donnait ses grâces au travers d'une église, puis un sacrement qui s'appelait la profession de la foi. Et que Dieu distribuait ses grâces comme ça, puis on recevait la grâce au travers d'une institution, puis des hommes. Puis ce soir-là, j'ai compris qu'il n'y avait aucun intermédiaire entre l'homme et Dieu, sauf Christ, qui était mort et qui était ressuscité pour nous. Et donc, dans Colossiens, chapitre 2, verset 13, c'est écrit, « Il nous a rendus à la vie avec lui. » Wow! Pas « je vais avoir la vie éternelle, mais que je meurs. » Il nous a rendus à la vie, donc j'ai reçu sa vie maintenant, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ a pris mes offenses ce qui m'empêche d'aller au ciel avec Dieu le jour de ma mort. Il l'a pris sur lui, puis en échange, il m'a donné sa vie. Et je n'ai pas besoin de passer par une institution religieuse pour recevoir le pardon, ni par un confesseur, mais simplement en comprenant que Christ est mort pour moi et j'accepte cette transaction-là pour moi. Mais ça prend la croyance en sa crucifixion, son ensevelissement et sa résurrection, puisque sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de vie éternelle puis il n'y a pas de vie après la mort. Alors, je vous invite à fermer les yeux ensemble puis à vous poser la question, Jésus est-il réellement ressuscité? C'est un pas qu'on a besoin de faire aujourd'hui. De toute façon, on va prendre le repas du Seigneur, c'est le pain puis le vin. Puis le vin ne se transformera pas dans la personne de Jésus, ni le pain, ce sont de simples aliments. Ils ne seront pas bénis par moi. C'est un symbole que Jésus nous a donné, puis il a dit, prenez le pain, qui est un symbole de mon corps qui a été brisé sur la croix. Puis prenez le vin pour un symbole de mon sang qui a été versé pour vous. Puis faites-le en annonçant que je vais revenir. On va prendre le repas aujourd'hui en se rappelant que ce que Jésus a fait, mais aussi en se rappelant aussi qu'on va le voir et qu'on va prendre ce pain-là avec lui. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, que Pasteur Richard disait tantôt, c'est quand il a rompu le pain puis qu'il a distribué le vin qu'ils se sont rappelés de lui. Puis là, il a disparu de devant eux. Je vous place devant Jésus ce qu'il a fait pour vous, qui il est Dieu, fait homme. Il est sans péché. Il est mort sur la croix pour toi parce qu'il aimait mieux mourir pour toi que de vivre l'éternité sans toi. Il est venu payer la dette de tes péchés pour que tu sois rendu libre et que tu puisses, au jour de ta mort, aller avec lui. En attendant, il te donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit vient vivre en toi et te donne sa vie, la vie même de Jésus. Et tu marches avec celui qui est ressuscité des morts. Si tu acceptes cela, tu vas pouvoir prendre le repas. Si tu n'as pas accepté cela, c'est sage pour toi de ne pas prendre ce pain et ce vin puisque tu n'as pas encore pris position concernant qui Jésus est et ce qu'il a fait pour toi. J'aimerais t'offrir la possibilité de faire la paix avec Dieu. La paix parce que la Bible dit que nos péchés ont mis une séparation entre nous et avec Dieu. Que Jésus-Christ est venu payer. Et si tu acceptes que lui a été réconcilié avec toi, ben, tu lui dis que tu es réconcilié aussi avec lui. Si tu veux recevoir cette réconciliation-là, tu as simplement à croire qui Jésus est, ce qu'il a fait, puis l'accepter dans ton cœur. On va faire une prière qui n'est pas une prière magique. C'est surtout de croire ce que tu vas dire qui est important, les mots que tu vas dire. Ce n'est pas la façon que c'est formulé. Okay? Alors, si tu veux recevoir la paix avec Dieu, faire la paix avec ton Dieu, fais cette prière avec nous. On va la faire ensemble. Tu vas peut-être entendre des gens qui la font aussi. Ce n'est pas qu'ils la font plusieurs fois, c'est qu'ils la font en geste de courtoisie pour t'accompagner dans ce geste de recevoir le Seigneur. Et si tu veux placer ta foi en Jésus, prie comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu es venu sur la terre, que tu t'es fait homme, que tu n'as pas péché, que tu es mort sur la croix, comme un coupable à ma place. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me préparer une place et que tu vas revenir nous chercher. Et aujourd'hui, je vais prendre le pain et le vin pour me rappeler. Pour me rappeler ce que tu as fait et que tu vas revenir. Amen. Seigneur, si quelqu'un a compris l'amour que tu as démontré à la croix pour eux, si quelqu'un a compris que ta résurrection était nécessaire pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, si tu as ouvert les yeux de quelques-uns, si sur enregistrement on entend cette bonne parole, Seigneur, eh bien, je te prie que ces gens-là puissent continuer dans la foi, lire leur Bible et connaître celui qui les a tant aimés. Puis pour chacun d'entre nous aussi, qu'on puisse marcher comme Moïse qui marchait fermement, comme voyant celui qui était invisible. Seigneur, la foi dans ta résurrection aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence dans ma persévérance. C'est ce qui me donne le goût de continuer, sachant que tu es pas loin de chacun d'entre nous. Je te demande de bénir ce temps que nous allons prendre le pain et le vin. Et quand les éléments vont être distribués, on va faire quelques actions de grâce avant de les prendre. On va prendre un chant. Merci beaucoup.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.